Bonsoir. De nos excuses pour le retard, le secrétaire général va lire des remarques liminaires et ensuite il répondra à vos questions. Bonsoir. L'Ukraine est actuellement le problème de sécurité le plus important en Europe. Nous avons diffusé un communiqué précisant la position de l'OTAN. Nous continuons de suivre de très près les développements en Ukraine. Nous déplorons les pertes tragiques en vie humaine. Nous saluons le fait qu'un terme a pu être mis à la violence au moyen de négociations qui ont ouvert la voie à une issue pacifique. Nous insistons sur l'importance d'un processus politique sans exclusive qui repose sur des valeurs démocratiques, sur le respect des droits de l'homme et des minorités et sur l'état de droit, et qui permette de répondre aux aspirations démocratiques de toute la population ukrainienne. L'OTAN et l'Ukraine ont un partenariat spécifique au sein de la Commission OTAN-Ukraine, qui reste le cadre de notre coopération. L'OTAN se tient prête à poursuivre le dialogue avec l'Ukraine et à l'aider dans la mise en œuvre des réformes. La réforme de la défense et la coopération militaire restent des priorités de premier plan. Nous saluons la décision des forces armées ukrainiennes de ne pas intervenir dans la crise politique. Dans une démocratie, il est impératif que les forces armées n'interviennent pas dans le processus politique. Nous soulignons la nécessité de renforcer le contrôle démocratique du secteur de la défense et de la sécurité, qui passe par un contrôle parlementaire effectif et une solide participation de la société civile. Dans le contexte des événements tragiques survenus récemment, il est fondamental pour son avenir que l'Ukraine dispose d'institutions transparentes, démocratiques et responsables. Une Ukraine souveraine, indépendante et stable, fermement attachée à la démocratie et à l'état de droit, est essentielle à la sécurité euro-atlantique. Tout comme ils en sont convenus il y a 17 ans, lors de la conclusion du partenariat, les États membres de l'OTAN continueront d'apporter leur soutien à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, à son intégrité territoriale, à son évolution démocratique et au principe d'inviolabilité des frontières, facteur clé de la stabilité et de la sécurité en Europe centrale et orientale et sur l'ensemble du continent. Nous continuerons de discuter de nos relations et j'attends avec intérêt de rencontrer nos partenaires ukrainiens demain. Nous nous sommes également entendus sur ce que devraient être les priorités de l'OTAN d'ici au sommet du Pays de Galles en septembre et sur la manière de conserver des capacités fortes et des compétences pointues. Nos opérations, notamment en Libye et en Afghanistan, nous ont permis de voir dans quel domaine nos capacités ne sont pas suffisamment avancées et quelles sont les capacités dont trop peu de pays disposent. L'opération en Libye a fait apparaître un manque de munitions à guidage de précision, de moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que d'experts capables d'interpréter les données que ces moyens collectent. Des travaux sont en cours, mais la crise économique n'a pas facilité les choses. Nous devons donc prendre le temps de réfléchir à la façon la plus efficace de travailler ensemble pour remédier à ces insuffisances. Nous allons également poursuivre activement nos projets de défense contre les menaces de demain, tels que les missiles et les cyberattaques. Nous devons aussi faire en sorte que nos forces conservent les compétences qu'elles ont acquises en plus de 20 ans d'opération. Nous devons faire en sorte que toutes nos troupes, y compris nos forces spéciales, restent en mesure de travailler ensemble sans effort et de manière harmonieuse. Et pour ce faire, nous devons travailler avec nos partenaires et nous devons nous y appliquer. Ce n'est que par la pratique que nous y arriverons. C'est pourquoi nous allons faire de l'initiative d'interconnexion des forces, justement axée sur la pratique, un élément central du sommet du Pays de Galles. L'OTAN a aussi une grande expérience de la collaboration avec des pays extérieurs à l'Alliance pour la mise en œuvre de leurs réformes dans le secteur de la sécurité. Nous l'avons montré en Afghanistan, en Irak, au Kosovo et ailleurs. Le renforcement des capacités, c'est la stabilité et la prévention. C'est aider les pays à s'aider eux-mêmes, nous permettant ainsi de projeter la stabilité sans toujours devoir projeter des forces. Compte tenu de l'instabilité grandissante à notre périphérie, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire de plus pour aider nos voisins à prévenir les crises qui se dessinent. Alors que nous sommes sur le point d'achever notre plus grande opération terrestre, notre capacité à projeter la sécurité au-delà de nos frontières dépendra de plus en plus de notre présence en mer. Pour une grande partie de nos approvisionnements énergétiques, nos échanges commerciaux, nos économies dépendent du transport maritime. Il est par conséquent indispensable que l'OTAN utilise au mieux les capacités maritimes dont elle dispose pour préserver la liberté de navigation, pour faire face à tout l'éventail des menaces, y compris la piraterie, le terrorisme et les armes de destruction massive, et pour coopérer avec des partenaires compétents et en aider d'autres à développer leur potentiel. Notre tâche est de faire en sorte que l'OTAN soit et reste prête et apte à faire face aux défis de demain. Et aujourd'hui, nous avons pris d'importantes mesures en ce sens en prévision du sommet au Pays de Galles. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Yes, detailing from DPA, the German...
Monsieur le secrétaire général, ce matin, vous avez parlé de la question ukrainienne, vous avez mentionné la souveraineté, l'intégrité territoriale du pays, vous avez dit que vous aviez fait passer ce message à qui de droit. Pouvons-nous, en lisant entre les lignes de la déclaration des ministres de la Défense, interpréter cela comme une mise en garde à l'endroit des Russes pour que la Russie fasse preuve de retenue et ne fasse pas des choses qui pourraient s'avérer dangereuses? Et dans quelle mesure est-ce que l'OTAN est prête à garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Et avez-vous été informé par les Russes de l'exercice militaire qui se déroule? Avez-vous été prévenu à l'avance? Pour commencer par la fin de votre question, oui, les Russes nous ont effectivement informés de l'exercice militaire. Mais permettez-moi d'insister sur un point. La déclaration, le communiqué que nous avons publié aujourd'hui est avant toute chose un message à l'endroit du peuple ukrainien, un message de solidarité, un message de soutien, un message d'engagement qui ne faillira pas aux côtés de l'Ukraine dans le cadre de la Commission OTAN Ukraine. Et je crois que, juste au sortir de tous les événements qui viennent de se décanter en Ukraine, il est absolument essentiel que nous publions ce communiqué, que nous transmettions ce message de soutien et que nous rappelions que nous adhérons bien sûr au principe que tout pays a un droit inaliénable, le droit de décider de son sort lorsqu'il s'agit de choisir ses alliances, de pratiquer une politique extérieure. Et c'est vraiment ces principes-là que nous souhaitions réitérer dans le communiqué. Vous n'avez pas beaucoup parlé de capacité. Vous êtes resté dans des termes très génériques. Est-ce que vous pensez à de gros projets phares à présenter au sommet, quelque chose qui pourra rassembler plusieurs pays et permettre de fournir de nouvelles capacités d'ici le sommet? Effectivement, nous envisageons des manières de combler certaines des lacunes capacitaires qui ont été identifiées lors d'opérations récentes. Je suppose que vous vous souviendrez qu'au sortir de l'opération en Libye, même pendant l'opération en Libye, nous avions identifié certaines lacunes au niveau du renseignement, de la surveillance, de la reconnaissance, au niveau des drones d'observation, par exemple. Nous avions également identifié une lacune, surtout européenne, en matière de ravitaillement en vol. Nous cherchons donc des manières de combler ces lacunes capacitaires. Et à cet égard, je suis conscient du fait que le Conseil européen, lors de sa réunion de décembre, a adopté des conclusions qui précisément se focalisent sur le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, l'utilisation des drones et se concentre également sur le ravitaillement en vol. Et je pense que c'est là un apport considérable pour le sommet du Pays de Galles au mois de septembre. Et lorsqu'il s'agit de la défense antimissile, je crois que là aussi, les alliés européens pourraient revenir vers nous avec des contributions. Il y a eu des annonces de contributions. Je crois qu'il y a encore place pour faire plus, pour faire mieux dans ce que vous appelez effectivement les projets phares. Aujourd'hui, la ministre italienne de la Défense a soulevé la question des deux pilotes de l'aéronaval qui sont emprisonnés en Inde. Quel est le soutien que l'OTAN peut apporter à cette question? Comme je l'ai déjà dit, je suis personnellement très soucieux du sort de ces deux membres italiens de l'aéronaval. Aujourd'hui, nous avons pris bonne note de la déclaration de la ministre italienne de la Défense. Et comme je l'ai déjà dit, cette affaire pourrait avoir des conséquences délétères pour la lutte international contre la piraterie, un combat qui est dans l'intérêt de tous. J'espère donc que nous verrons une solution poindre à l'horizon très bientôt. Le général Dempsey à Kaboul aujourd'hui a dit qu'il était tracassé par cette option zéro. On en parle beaucoup. Peut-être est-elle contre-productive. Peut-être que les forces afghanes vont résoudre de rejoindre les talibans par crainte. Craignez-vous par rapport à la crédibilité de l'OTAN? On demande d'abord gentiment une réponse, puis un peu moins gentiment, et puis l'on menace Hamid Karzai en disant qu'en ne signant pas l'accord bilatéral de sécurité, il a beaucoup à perdre. Est-ce que cela ne vient pas un petit peu hypothéquer les pressions politiques de dire maintenant on attend et on ne fait plus rien? En fait, nous ne parlons pas d'option zéro. Bien au contraire, nous parlons de l'option que nous préconisons, qui est une option visant à déployer une mission de formation sous la houlette de l'OTAN en Afghanistan après 2014. Une mission intitulée Resolute Support, c'est son nom, et nous continuons à planifier cette mission. Voilà de quoi nous parlons. L'option qui a notre préférence est un déploiement d'une mission de formation en Afghanistan. Mais bien sûr, il faut tenir compte des faits. Et la réalité veut que jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas de signature à poser au bas de l'accord bilatéral de sécurité entre les États-Unis et l'Afghanistan. Ce qui veut dire que nous n'avons pas non plus été en mesure de mettre la dernière main à la convention OTAN sur la sécurité des forces en Afghanistan, la SOFA. Si les instruments juridiques ne sont pas en place, dans les faits, cela veut dire qu'il est impossible de déployer et que donc il faudra tout retirer d'Afghanistan d'ici la fin de l'année. Et ce n'est malheureusement pas ce dont nous voulons parler. Nous parlons de la mission après 2014, Resolute Support, qui a notre préférence. Mais pour des raisons de planification, il nous faut aussi parer à toute éventualité. Mais je persiste et signe, je pense que nous finirons par avoir un accord signé. Peut-être que ce ne sera pas la signature du président Karzai qui sera apposée à ce document, mais j'espère que le nouveau président afghan signera, lui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Ma conclusion est probablement que le président Karzai ne signera pas. C'est pour cela qu'il faut, je vous le disais, planifier pour toutes les éventualités, mais nous continuons à planifier un déploiement de la mission de formation à condition qu'un nouveau président accepte de signer l'accord de sécurité. Monsieur le secrétaire général, une toute petite question sur l'Ukraine. C'est vrai que dans votre communiqué, vous parlez beaucoup d'inclusivité, des droits des minorités au sein de l'Ukraine. De toute évidence, il y a beaucoup de minorités en Ukraine, pas uniquement les détenteurs de passeports russes ou les ressortissants d'origine russe. Demain, lorsque vous rencontrerez le vice-ministre ukrainien, est-ce que vous parlerez de cela? Je crois que c'est important au vu des premiers actes posés par le gouvernement intérimaire. Et s'agissant du sommet au Pays de Galles, sur la liste des activités que vous avez mentionnées, est-ce que mon interprétation est la bonne si je vous dis que l'OTAN entre dans une phase où elle va être une sorte de sous-traitant militaire au service des pays, de ces pays. Si vous revenez aux années 90, expansion, volet diplomatique, il me semble que c'est un petit peu comme si l'OTAN voulait jouer les seconds rôles. Sur l'Ukraine, tout d'abord. Absolument. Le message politique dans le communiqué d'aujourd'hui sera communiqué au ministre ukrainien lorsque nous le rencontrerons, demain en l'occurrence. Je pense qu'il est important de faire passer ce message et de bien lui faire comprendre qu'un processus démocratique inclusif est absolument essentiel pour l'Ukraine. C'est à ce prix que sera assurée la stabilité du pays. S'agissant de l'avenir de l'Alliance, si je comprends bien votre question, vous semblez penser que l'OTAN va devenir en quelque sorte une organisation politique. Oui, ou plutôt une organisation qui va faire une sorte de pas de côté. Bon, des pays comme l'Ukraine ne vont pas rejoindre l'OTAN. Ça va causer énormément de problèmes si l'OTAN continue sur cette voie. Regardez ce qui s'est passé dans les années 90 et comparez. L'OTAN continuera à être une organisation profondément politico-militaire. Bien sûr, l'OTAN a un but militaire, c'est la plus grosse alliance militaire au monde, la plus forte peut-être aussi de l'histoire. Et c'est là le but premier de l'alliance, être en mesure de défendre, de protéger nos populations, nos sociétés de manière efficace. Dans le concept stratégique, nous avons clairement défini nos tâches essentielles, la défense collective, la gestion des crises et ce que nous appelons la sécurité coopérative. Et cette sécurité coopérative, comme nous l'appelons, fait référence au fait que dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité, ce n'est pas uniquement et exclusivement une question militaire. La sécurité, c'est aussi avoir des partenariats forts, des partenaires avec lesquels on peut travailler en opération, mais aussi des partenaires avec lesquels on peut avoir un dialogue politique. Vous verrez donc réaffirmer ces trois grands piliers, ces trois grandes tâches essentielles au sommet de l'OTAN. Mais ce que vous verrez aussi au sommet de l'OTAN, au prochain sommet de l'OTAN, c'est un étoffement de nos partenariats, un renforcement de ces partenariats, mais aussi un renforcement de nos capacités militaires. L'Alliance ressortira grandie dans les deux domaines, politique et militaire.
Jim Newkirk de Bloomberg, vous avez dit que la Russie vous a informé des exercices militaires. Quand est-ce que la Russie vous a donné cette notification? Quels sont vos soucis concernant la portée de cette série d'exercices? J'ai passé ma journée entière dans des réunions. Je ne sais donc pas quand les Russes ont envoyé cette notification à l'OTAN. J'ai reçu le message pendant les réunions cet après-midi. Et le deuxième volet de votre question, s'il vous plaît? Compte tenu de la portée de ces exercices et leur emplacement, quelles sont vos préoccupations? Je ne suis pas en mesure de rentrer dans le détail concernant la portée ou le but de cet exercice. Je sais tout simplement que cet exercice militaire a été notifié, nous en sommes informés, donc je suppose que les Russes se sont montrés à la hauteur de toutes leurs obligations pour ce qui concerne la transparence. Mais j'ai passé ma journée dans des réunions, donc je ne dispose pas davantage d'éléments concernant cet exercice. Merci beaucoup. À demain.